l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
On se retrouve pour la suite d'appels sur l'actualité, pour notre débat du jour ce matin sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Avec d'un côté, la confiance retrouvée des bailleurs de fonds publics. Lors d'une réunion à Paris, hier et avant-hier, ils ont promis plus de 15 milliards de dollars de dons et de prêts sur 4 ans pour que le pays puisse appliquer son plan de développement. C'est deux fois plus qu'espéré. Mais est apparue aussi la frilosité du secteur privé. Avec là un engagement moins important qu'attendu. Résultat, Abidjan repart de Paris avec un engagement de 30 milliards de dollars contre les 50 milliards de dollars espérés. Alors à votre avis, qu'est-ce qui explique cette situation? Comment améliorer encore la confiance des acteurs économiques? Dites-nous aussi quelles doivent être les dépenses prioritaires des autorités ivoiriennes pour le développement du pays. Abidjan qui espère à terme devenir un pays émergent, c'est-à-dire parmi les 50 meilleures économies du monde. Notre premier auditeur qui nous a appelé au 33 9 693 693 70, c'est Guy Roger à Abidjan. Jean. Bonjour Guy Roger.
Bonjour Marie.
La confiance des bailleurs de fonds publics, Guy Roger, et la frilosité du secteur privé, est-ce que le bilan de cette réunion de deux jours vous étonne?
Oh, le bilan n'étonne guère. Le bilan n'étonne guère. Il est tout au contraire la matérialisation de la réalité de la situation ivoirienne. La confiance, la soi-disant confiance retrouvée par les bailleurs de fonds publics n'est pas étonnant. Je vous donne la première phrase d'une note du service économique de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, datant de juin 2015, qui dit que la situation macroéconomique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est très favorable. Donc lorsque le parrain, la France, dit ça dans une note venant de son service économique, ben, les bailleurs de fonds publics, la Banque mondiale et tout ce qui suit, ne peuvent alors que suivre et puis en encourager le pays.
Ce que vous voulez dire, Guy Roger, c'est à partir du moment où la France fait confiance à la Côte d'Ivoire, finalement les bailleurs de fonds suivent. On parle de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, d'autres pays étrangers ou de la Banque islamique de développement. C'est ça, on suit en fait la locomotive France?
Voilà, on suit la locomotive France parce que selon cette fâcheuse expression dans les couloirs de l'ONU, la Côte d'Ivoire est le précaré français. Donc si le patron du précaré dit que tout va bien, on n'a pas de soucis, on peut aller à fond. Mais contrairement à ça, le secteur privé...
Alors
va
juste
venir
pour terminer là-dessus, Guy Roger, alors juste une petite précision, la France n'est pas le premier investisseur en Côte d'Ivoire, c'est le quatrième. Le classement a un petit peu changé derrière l'île Maurice, l'Inde et le Maroc. Et donc à propos du secteur privé, qu'est-ce que vous vouliez nous dire à ce propos?
Voilà, le secteur privé, quant à lui, est plus regardant. C'est qu'on est la réalité terrain, c'est ce qui se passe, c'est que selon les données du gouvernement, les appels d'offres, par exemple, 90% des appels d'offres, ce sont des données de l'État ivoirien, se font de gré à gré. Le docteur Alassane Ouattara, en s'expliquant, dit qu'il est pressé, et donc parce qu'on est pressé, ce qui devrait être l'exception devient la règle, donc il n'y a plus de transparence dans la gestion, et la pression fiscale est grande sur les entreprises, le taux d'inflation, vous parlez toujours du taux de croissance de 9%, souffrez qu'on vous dise que c'est une croissance appauvrissante, parce qu'elle n'est pas basée sur la création de richesses, mais basée sur l'investissement, sur les grands travaux qui eux-mêmes sont basés sur l'endettement. Actuellement, la Côte d'Ivoire, au 31 décembre 2014, avait une dette de 7 804 milliards de francs CFA, qui représentait 34%.
Alors, vous avez l'air effectivement très, très documenté, Guy Roger, près de 40% du PIB. Je précise juste qu'en France, c'est 93,5% du PIB, le montant de la dette. Vous parliez tout à l'heure de la signature des contrats avec l'État. Moi, je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que les investisseurs locaux comme étrangers, les investisseurs privés demandent aux autorités ivoiriennes de simplifier la fiscalité et de mettre fin à la corruption. C'est ce qui a l'air de freiner le secteur privé. Merci beaucoup, Guy Roger, pour votre analyse de la situation économique. On va accueillir maintenant Jacques, qui est aussi à Abidjan. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous partagez un peu l'analyse de Guy Roger sur la confiance des bailleurs de fonds publics, mais la réticence du secteur privé?
Oui, en fait, Guy Roger, j'allais dire, a dit l'essentiel. Bon, il faut juste apporter quelques précisions, surtout concernant la frilosité du secteur privé quant à participer au financement du programme national de développement. En fait, les problèmes majeurs sont surtout la corruption. Et voilà, donc à ce niveau, l'État, je vais dire, a des efforts encore à faire. Mais je vais dire, sur la bagatelle somme de 50 milliards, avoir récolté 30 milliards, ce n'est pas rien, parce que c'est un plan quinquennal. Donc déjà, si les 30 milliards se réalisent, se manifestent en termes de liquidité, je veux dire, ça peut permettre déjà de financer le PND si c'est dans ces trois premières années. Maintenant, il appartiendra à l'État de faire des efforts pour pouvoir assainir surtout le secteur privé, et non pas le secteur privé, mais je veux dire faire une lutte plus accrue dans la corruption, peut-être disparaître un peu, faut pousser la corruption loin de l'environnement économique, afin de pouvoir donner toute la confiance dont a besoin le secteur privé.
Vous pensez, Jacques, que la déception des autorités ivoiriennes, dans ce qu'elle a pu récolter pendant ses deux jours à Paris, pourrait la pousser davantage encore à lutter contre la corruption ?
Mais je lui ai dit que ça va de soi. Ça va de soi. La corruption est une réalité en Côte d'Ivoire et il se trouve que c'est une lutte, je vais dire, quotidienne. Sinon, une lutte acharnée. Dans le dernier classement au niveau de la lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire est classée entre le 150 et le 160e pays. Je pense que cela n'est pas bon, contrairement au côté doing business, où la Côte d'Ivoire de 2015 à 2016 a occupé la 42e et la 46e place, ce qui est très honorable.
Alors ce classement Doing Business, félicite la Côte d'Ivoire, mais surtout pour ses réformes. Elle a fait énormément de réformes pour faciliter par exemple la création d'entreprises, pour baisser les frais de notaire, la création d'un guichet unique d'inscription, donc pour créer une entreprise, ou encore la numérisation du CADA. C'est l'un des pays qui a fait le plus de réformes. Est-ce que vous sentez quand même que le climat des affaires a changé ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement ?
Oui, il est clair que ça a changé. Avec les réformes entreprises par le gouvernement sous la houlette du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut créer une entreprise en 24 heures. Tout ce qui participe, je vais dire, à l'augmentation du PIB. Parce que le prêteur public, qu'est-ce qu'il regarde avant de vous prêter de l'argent ? C'est votre capacité de remboursement. Oui. Et la capacité de remboursement se détermine par la richesse par habitant, qui notamment est le PIB. Si le PIB de la Côte d'Ivoire aujourd'hui lui permet d'absorber un certain nombre de dettes, je pense que ce n'est pas une crainte pour le prêteur public ou bien même pour le prêteur privé de financer quelque chose. Seulement, là où il y a la crainte, c'est de savoir si le financement qu'on va octroyer sera utilisé sans risque de corruption, sans risque d'augmentation.
Donc vous soulignez, pour résumer, Jacques, beaucoup d'efforts faits pour le climat des affaires, mais il en reste encore à faire, notamment dans le secteur au niveau de la corruption, qui a l'air de freiner les investisseurs privés. On parle d'investisseurs étrangers, mais aussi locaux. On va se retourner vers le Standard pour accueillir maintenant Abou à Grand Bassam. Bonjour Abou.
Oui, bonjour madame, bonjour toute la Côte d'Ivoire.
Soyez le bienvenu à bout. Alors pour vous quand même, vous avez l'air de retenir tout de même les promesses de dons et de prêts des bailleurs de fonds. C'est plus de 15 milliards de dollars et c'est deux fois plus que prévu. Pour vous, ça veut dire quoi ?
Oui, alors moi, contrairement au premier interlocuteur, moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que pour un État, lorsqu'il va sur un marché financier, pour espérer avoir de l'argent pour financer son développement, lorsqu'il a le double de ce qu'il demande, c'est parce que c'est bel et bien l'économie qui va. Donc, permettez-moi de féliciter le gouvernement, l'État ivoirien, pour cela. Alors, maintenant, on pose le problème de la frilosité du secteur privé. C'est bien vrai, le développement doit s'amorcer maintenant pour la Côte d'Ivoire. Mais justement, la Côte d'Ivoire n'échappera pas aux longues pratiques que les États pratiquement africains ont dû avoir à faire. Parce qu'il y a la corruption, il y a beaucoup de choses. Ben, c'est un processus de longue haleine. Mmh. C'est une lutte acharnée au quotidien. Donc, justement, le plan national de développement qui a été initié vise à lutter contre ça. Donc, le secteur privé, lui, il a son argent. Bon, c'est une personne, il regarde où il doit mettre son argent ou pas.
Oui, pour, vous, le PND, justement, peut aider le pays à encourager les bonnes pratiques. Et en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être une pression aussi pour le gouvernement pour faire davantage d'efforts.
Exactement, parce que je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un service, et d'ailleurs le précédent interlocuteur l'a tout de suite démontré au niveau du doing business, mais lorsque vous allez dans un service public aujourd'hui, ben, vous êtes pris en charge, les délais d'attente des documents, hein, les systèmes de guichet unique, parce que pour pouvoir faire un simple papier, il fallait parcourir plusieurs unitaires. Mmh. Aujourd'hui, la tendance est à l'unicité des services, hein, pour que la rapidité des choses se fasse. Donc, justement, le premier PND a servi à assainir la base. Donc,
oui, vous constatez PND... des progrès. Comme vous le disiez, le précisiez, le PND a déjà commencé. Il y a déjà eu 4 ans de politique de développement avant cette deuxième tranche, donc 2016-2020. Merci à vous. On va accueillir maintenant Teddy, qui est à Abidjan. Bonjour Teddy.
Oui, bonjour Marie.
Teddy, vous avez l'air, vous, plutôt déçu par les engagements du secteur privé au cours de ces deux jours de réunion.
Oui, vraiment déçu parce que j'arrive pas à comprendre. Nous, en tant qu'opérateurs économiques privés, nous pouvons demander à l'État de domicilier 70% de ce montant dans une banque nationale pour que la PME et les entreprises privées puissent en bénéficier. Alors, puisqu'on contribue aussi à booster l'économie ivoirienne. Nos banques ivoiriennes ne font pas de crédit, soit on vous demande l'hypothèque de votre maison ou votre terrain ou même votre immeuble ou un BAT. Et cela n'est pas incitatif.
Teddy, ce que vous avez l'air de dire, alors, c'est que investir en Côte d'Ivoire, c'est clairement compliqué. Hein. Vous en avez fait l'expérience peut-être?
Oui, puisque moi-même, je vous parle en tant qu'opérateur économique, nous avons un grand problème ici à Abidjan, c'est que nous n'avons pas accès aux crédits dans nos banques. Mmh. Quand on demande des crédits, la banque ne nous donne pas. On nous demande des garanties pas possibles, Marie. Mmh. Alors, cette nouvelle, quand on a eu la nouvelle, on a dit, ben voilà, cette fois-ci, je pense que le gouvernement peut quand même nous regarder et nous faire aussi des prêts pour qu'on puisse travailler, parce que nous aussi, on crée des emplois. Mmh. Et je suis quand même déçu qu'on dise non, que le secteur privé n'est pas... Non, ça, je ne suis pas d'accord. C'est
mais alors, du coup, si la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens d'aller jusqu'au bout de son plan national de développement, puisqu'elle a besoin de 60 milliards de dollars, et pour l'instant, elle en a 34 milliards, mais ce sont en plus des promesses, hein. Est-ce que ça vous inquiète qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout de son plan, sachant que l'objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent?
Oui, Marie, un pays émergent, je suis d'accord. Mais il y a une chose aussi qui est là, c'est que les Ivoiriens doivent manger à leur faim. Mmh. Ils doivent se loter à leur faim, ils doivent se soigner à leur faim. Moi, je parle en tant qu'opérateur économique, je dis simplement il faudrait qu'on nous décaisse un peu d'argent pour que nous puissions aussi booster l'économie ivoirienne. Oui. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas accès au crédit. Donc c'est très important. Vous avez vu que récemment, il y a eu une grogne sociale. Ça, c'est aussi important. Mmh. Ça ne servira à rien d'avoir de l'argent et qu'on tombe encore dans une bagarre.
C'est-à-dire que la croissance doit passer par l'investissement privé, l'investissement de tous les Ivoiriens. Effectivement, il a été question quand même des points négatifs lors de cette réunion, même quand ce sont les bailleurs de fonds publics qui exprimaient leurs promesses. Ils ont parlé du faible recul de la pauvreté, du chômage qui touche un actif sur 4, la fiscalité des petites entreprises qui était très lourde et plus de 46% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est 20 points de plus que dans les années 80. Merci Teddy. Franck nous appelle aussi d'Abidjan. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors vous êtes auto-entrepreneur, comment vous analysez le résultat de ces deux jours de réunion et notamment la frilosité des entreprises privées à investir en Côte d'Ivoire?
Bon, dans l'absolu, moi je ne parlerai pas de frilosité, parce que lorsque on obtient par exemple 30 milliards sur 50 prévus, ça fait 60%, je pense que c'est encourageant.
Alors, sachant que la moitié ce sont des fonds publics, hein, on l'a parlé de bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, donc il n'y a qu'une partie qui vient du secteur privé.
Tout à fait, on est entièrement d'accord, mais je veux dire que c'est bien un premier pas qui va permettre de donner un petit coup de boost. Mais je voulais quand même, parce que tout a été dit précédemment sur la corruption et tout ça, mais je voulais quand même attirer l'attention sur un élément puisque dans le PND 2016-2020, il est prévu de susciter l'auto-emploi et l'auto-entrepreneuriat. Mmh. Il y a une réalité qui touche les PME dans beaucoup de secteurs d'activité. C'est la proportion d'entreprises informelles qui exercent dans ce secteur d'activité-là. Mmh. Alors, vous pouvez investir dans une activité quelconque, mais si votre activité est parasitée, parce qu'à côté de vous, vous avez quatre entreprises informelles qui pratiquent, qui font la même pratique que vous, vous comprenez que ça vous est pénalisé. On a parlé de fiscalité qui est très forte, et c'est vrai, parce que la fiscalité aujourd'hui sur les PME, elle pèse sur environ entre 20 et 30% des PME qui exercent. Et ça, c'est un élément sur lequel je souhaiterais que l'État...
C'est-à-dire que voilà, les entreprises légales sont finalement peu nombreuses, donc le poids de la fiscalité est très forte sur eux. Vous le disiez, un secteur informel qui nourrit aussi, on peut imaginer, la corruption.
Exactement. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes dans l'informel, vous êtes amené à susciter des pratiques qui ne sont pas normales. Et vous êtes vous-même sujet à des pressions qui sont anormales. Donc tout ça, c'est un facteur et un terreau fertile au développement de la corruption.
Merci Franck. On va parler maintenant peut-être un peu plus précisément de ce plan national de développement, maintenant qu'on a une petite idée de son financement. Savoir ce que vous en attendez aussi. On va accueillir Ahmed qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce PND? Est-ce que vous avez regardé un petit peu quelles étaient les priorités du gouvernement? Si ça vous allait, si vous pensez que ça va dans le bon sens pour le développement de la Côte d'Ivoire?
Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça va effectivement dans le bon sens du gouvernement ivoirien. Mais je pense que les priorités doivent être sur les infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructures, les routes, ainsi de suite, les centres de santé. Mmh. Voilà, donc, et à l'intérieur, Abidjan, ici, on n'a pas trop de problèmes. Si c'est pas... Moi, par exemple, je suis à Yopougon, dans la plus grande commune d'Abidjan. Il n'y a pas de route, à part ce qu'on appelle l'autoroute du Nord. Quand tu veux aller à Djamé, au plateau, à Trècheville, il faut forcément passer par l'autoroute du Nord. Et l'autoroute du Nord, une fois que c'est bouché, c'est fini. Tu arrives au travail à 10h, si tu as un rendez-vous, c'est complètement raté.
Les infrastructures, hein, ça fait partie effectivement du plan national de développement.
Du développement, voilà.
On parle aussi de développer le secteur agricole, le secteur privé, la formation pour que les gens qui sortent des écoles, des universités soient mieux préparés au marché de l'emploi. Est-ce que pour vous, il y a d'autres priorités encore?
Ouais, je pense que tout ça, c'est déjà bon. Tout ça, c'est déjà bon. Et au niveau maintenant du secteur privé, c'est dû au chômage à la corruption. Mmh. Le secteur privé, c'est dû à la corruption. Moi, je pense que ça doit interpeller le gouvernement. Il doit faire plus d'efforts pour éviter, baisser le taux de corruption pour que au moins les investisseurs viennent assez en Côte d'Ivoire.
Ahmed, vous disiez aussi qu'il fallait que ce PND profite à tout le pays et pas que à la capitale économique, Abidjan. On va accueillir du coup Denis qui est à Korogo dans le nord du pays. Bonjour Denis.
Bonjour madame.
Est-ce que vous aussi vous allez être très regardant sur les projets qui se font aussi en province, j'imagine, dans votre région pour la développer?
Madame, au-delà des investissements qu'on fait,
Denis,
nous mangeons pas le goudron. Nous ne mangeons pas les infrastructures, nous mangeons notre quotidien. Et le quotidien, là, c'est le sac de riz. Le quotidien, c'est ce que nous donnons à notre femme comme argent de popote. Et quand elle va au marché, elle nous dit qu'avant, quand tu me donnais 1000 francs, ça allait. Aujourd'hui, même avec 2000 francs, je ne peux rien acheter. Mmh. Et ça, nous vivons. Quand nous voyons à la télévision qu'on nous donne 15 milliards, qu'on nous donne 20 milliards, mais nous ne ressentons absolument rien dans notre quotidien. Mmh. Je vous donne un exemple simple. Le président de la République nous a dit qu'il a diminué le prix du carburant. C'est vrai, le prix du carburant a diminué. Mais en même temps, quand vous faites supporter une fiscalité rude aux sociétés, mais jamais le prix du transport ne peut diminuer. Vous constatez, le prix du transport n'a aucunement diminué depuis la diminution du carburant.
Denis, vous nous dites que finalement, on parle beaucoup de croissance, mais que vous ne la constatez pas.
Et nous, là, le petit peuple, là, nous ne voyons absolument rien. Et puis chez nous, on le dit, le poisson pourrit par la tête. À partir du moment où le président a son élection, il nous a dit, à la formation du premier gouvernement, que chaque 3 mois, on va faire le bilan pour savoir qui travaille, qui ne travaille pas. Mais madame, quand vous avez un ministre qui, devant ses yeux, on a augmenté la facture de l'électricité depuis 2015, le président même sort, il reconnaît qu'il y a eu